production. Voilà. C'est parti, l'actualité des idées dans cette dernière partie de la Grande Table. Nous poursuivons la réflexion entamée par les matins dans le cadre de notre journée spéciale, les inégalités en France. Comment établir une justice sociale? Élection 2017, horizon 2022, c'est donc la première des quatre journées spéciales que nous consacrerons à ces questions avec vous, Antoine Mercier, et notre invité. Ça tombe bien, il vient de publier « Punir une passion contemporaine au seuil », un livre issu des conférences qu'il a prononcées au printemps dernier à l'Université de Californie à Berkeley. Qu'est-ce que punir? Qui punit-on? Pourquoi punit-on? Une réflexion sur la nature du châtiment au XXIe siècle et sur ce que la distribution des peines dit des inégalités dans nos sociétés. L'anthropologue Didier Fassin, professeur de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study de Princeton, directeur d'études à l'EHESS, est donc notre invité. Des questions de santé aux enjeux politiques et moraux de nos sociétés. Auteur précédemment de La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers et de l'ombre du monde sur la condition carcérale, où il aborde de front la question des discriminations ethniques et raciales dans l'appareil répressif français. Entre la philosophie morale et la théorie juridique, il nous invite donc cette fois à repenser la place du châtiment dans le monde contemporain, en s'intéressant moins au moment punitif qu'au fondement de l'acte de punir. Quoique, Didier Fassin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment la question des inégalités est-elle devenue aussi centrale dans vos travaux ?
D'abord, je me réjouis que France Culture consacre une journée aux inégalités et qu'elle choisisse de le faire dans cette émission en croisant le problème des inégalités avec celui de la pénalité, parce que finalement, c'est rarement dans ces termes que les choses sont posées. Alors, depuis quand je m'intéresse aux inégalités, je crois depuis...
En fait, est-ce que cette question des inégalités ressurgit dans chacune de vos enquêtes, de vos recherches, de vos travaux, ou est-ce que c'est la question de départ pour vous?
Je pense que c'est une question de départ. Je pense que elle sourd en quelque sorte depuis que j'ai fait de la médecine et ensuite de la santé publique et ensuite des sciences sociales. Et pour moi, ça a été une question permanente, quels que soient les thèmes assez différents sur lesquels j'ai pu travailler.
Elle revient d'en punir, une passion française. Pour vous, le moment punitif est à la fois le contrepoint et le catalyseur du moment inégalitaire. En quoi ?
La passion est contemporaine et pas seulement française, elle est globale.
J'ai écorché le titre du livre, « Punir une passion contemporaine ». Oui, j'ai voulu la faire très franco-française. Elle est plus large que ça et plus universelle. « Punir une passion contemporaine ».
Oui, La pénalité, on peut se rendre compte que un des éléments tout à fait marquants du dernier demi-siècle a été un alourdissement de la sévérité de la peine telle qu'elle se mesure ou peut se voir à travers des taux d'incarcération en France, mais ailleurs, avec une explosion véritablement, une inflation carcérale.
Partout ailleurs, parce qu'il faut préciser peut-être cette donnée générale, vous parlez de passion contemporaine, effectivement. Est-ce que quand même il y a des pays plus ou moins touchés, si je puis dire, par ce phénomène?
Alors, c'est un phénomène très général sur les 3, 4, 5 dernières décennies. Néanmoins, vous avez raison, avec des différences sensibles, le pays qui a eu l'évolution la plus spectaculaire et la plus défavorable à cet égard, ce sont les États-Unis, avec une multiplication par 6 ou 7 de sa population carcérale en une trentaine d'années. Avec du reste des écarts considérables qui se sont creusés à ce moment-là entre les taux d'incarcération des Noirs, des Hispaniques et des Blancs. Et puis, de l'autre côté, on a des pays qui, au contraire, soit sont restés dans la modération de leur politique punitive, notamment les pays scandinaves, soit ont inversé même, parfois en partant de niveaux comparables à celui de la France, c'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas, et depuis un peu plus longtemps, de la Finlande, par exemple. Donc, c'est un paysage qui est à la fois divers, mais en même temps sur lequel...
Et la France est plutôt du côté américain, dans cette tendance.
Pas autant, vous dites 4 fois plus, c'est ça, dans les 30 dernières années pour les États-Unis. Pour la France, d'après les chiffres que vous nous rappelez, on serait plutôt dans de l'ordre du 2 fois plus depuis une trentaine d'années. 43 000 détenus en 85, 70 000 détenus aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la courbe continue de monter, à être ascendante, là où souvent les promesses étaient de désengorger pas simplement les tribunaux, mais également les prisons. Hein.
Et puis, il faut bien voir également que on parle toujours, et c'est mon cas aussi, de la population qui est incarcérée, mais il faut voir aussi une augmentation qui est encore plus importante de la population qui est sous main de justice, et notamment des gens qui sont, par exemple, sous bracelet électronique. Donc, l'ensemble des personnes qui sont sous un régime punitif, soit carcéral, soit en alternative à l'incarcération, a connu une augmentation considérable et continue d'augmenter. 2016 a été un record pour la population en prison.
Sur cette question des inégalités, vous écrivez dans la revue Mouvement, à laquelle vous avez participé dans son numéro d'hiver 2016, dans une époque d'accroissement des inégalités économiques, comme l'a montré Thomas Piketty, et de montée de l'insécurité sociale, selon l'expression de Robert Castel, la désignation de bouc émissaire et la focalisation sur l'immigration illégale et la petite délinquance ont servi, entre autres, à éluder la question sociale et la demande de plus de justice sociale. C'est la thématique de cette journée. Comment établir de la justice sociale. Vous soulignez aussi d'en punir une passion contemporaine, le décalage considérable finalement entre cet idéal de peine juste qu'on affirme et la réalité de l'inégale distribution des peines qu'on refuse de voir. Dans la pratique, Didier Fassin, quels sont les présupposés qui nourrissent cette inégalité?
Alors, il y a une espèce de mouvement cyclique où on observe, en réponse à la question « qui punit-on » que certains délits sont plus font l'objet d'une plus grande sévérité que d'autres. Par exemple, la délinquance économique et financière a connu une décroissance en termes de condamnation d'environ un cinquième dans les années 2000, alors que le nombre de délits augmentait, on condamnait moins. Au contraire, dans cette même période, on a une multiplication par trois des condamnations pour usage simple de cannabis. Donc, on voit qu'il y a des choix qui sont faits sur quoi punir. Mais en fait, si on s'interroge un tout petit peu plus sur ce que ça signifie, ce quoi punir, eh bien, ça nous renvoie au fait que, comme l'avait laissé entendre Michel Foucault, notamment dans Surveiller et punir, eh bien, il y a des populations qui sont plus punissables que d'autres. Autrement dit, les illégalismes, comme ils les appellent, qu'on choisit de punir, renvoient aussi à des populations ou des catégories de populations qu'on va punir et d'autres qu'on va au contraire vouloir épargner.
Qui fait ces choix? Parce que vous dites qu'on choisit deux. Alors, bien apparemment, sûr. J'entends pas les hommes politiques dire ça.
Alors, bien sûr, personne ne revendiquerait ces éléments. Mais en même temps, quand, par exemple, les dirigeants de l'État français annoncent qu'ils veulent dépénaliser l'activité économique et financière, eh bien, là, on a quand même un discours en creux qui signifie bien cela. Quand en revanche, on dit qu'on veut faire la guerre à la petite délinquance, eh bien, on montre clairement le signe de l'autre côté.
Mais ça
côté.
Passe par la politique pénale directement, vous pensez?
Alors, ça passe... d'abord, c'est quelque chose qui est, je crois, assez partagé dans la population, dans lequel, d'ailleurs, les médias jouent un rôle certainement non négligeable. Et ensuite, c'est le législateur, c'est le travail de la police, et c'est finalement le travail des juges. Si on prend par exemple la lutte contre la drogue, depuis la loi de 1970 qui pénalisait à la fois le trafic et l'usage, eh bien on a une multiplication par 60 des condamnations. Donc on voit qu'il y a une plus grande sévérité. Chaque année, il y a à peu près 135 000 personnes qui sont interpellées par la police pour usage simple de cannabis. Mais alors qu'au départ, il s'agissait de s'attaquer à l'héroïne et à la cocaïne et au trafic, aujourd'hui, donc, la lutte contre la drogue porte essentiellement sur le cannabis et l'usage. Or, On considère qu'il y a 17 millions d'expérimentateurs et 1,5 million d'utilisateurs réguliers du cannabis. Donc si on voulait trouver des candidats pour les condamnations, voire pour l'emprisonnement, c'est facile de le faire. Or, la police cible son action, non pas sur les lycées ou sur les universités, mais sur les quartiers. Pendant les 15 mois où j'ai suivi des unités de police, jamais on est allé à la sortie d'un établissement d'enseignement supérieur. En revanche, on allait tous les jours vérifier l'identité et fouiller les véhicules et les personnes dans les cités. Donc quand on cherche chez certains, c'est là qu'on va trouver. Et donc, on arrive ainsi à présenter devant les juges seulement une certaine catégorie de population pour des délits qui sont relativement communs et en tout cas qui sont assez également distribués dans la population, ce que montrent les études épidémiologiques.
Une justice à deux vitesses, exemple de ce qui peut, en tout cas, sonner comme tel à nos oreilles dans l'actualité judiciaire récente.
Un nouveau chapitre des Misérables. C'est ainsi que l'avocate d'un jeune homme de 18 ans condamné hier à 2 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Cahors résume l'histoire de son client. En février dernier, le jeune homme qui vit dans la rue et dort sous une tente brise la fenêtre d'une résidence secondaire à Figeac. Il s'introduit dans la maison et dérobe une boîte de sardines et quelques kilos de pâtes et de riz. À la barre, le jeune prévenu dira que ce jour-là, il avait faim. Le ministère public requiert 5 mois de prison ferme pour vol avec effraction.
Entre minuit et 3h du matin, ils arrivent. Donc par la voie ferrée, là, en face, là, ouais. Tac.
Autour du feu, des Soudanais, des Égyptiens et des Tchadiens comme Hassan, 20 ans, les jambes fatiguées, recouvertes de bandages.
Je repose bien, je mange beaucoup de nourriture. Merci Cédric, il nous fait du bien, il nous traite bien ici.
Cédric Héroux risque jusqu'à 5 ans de prison pour avoir transporté des migrants chez lui ou dans les gares alentours. Son procès l'inquiète, mais il ne regrette rien.
Nous allons interjeter appel. Nous allons interjeter appel parce que nous pensons que la prison n'est pas une sanction véritablement adaptée. Aujourd'hui, Jérôme Cahuzac a non seulement payé les droits, les pénalités, et d'ailleurs il n'est pas condamné par le tribunal à une quelconque amende.
Christine Lagarde a été condamnée par la Cour de justice de la République. Elle est dispensée de peine. Votre réaction ?
Un sentiment d'une justice à double vitesse. Quel est le sentiment le plus terrible qui peut toucher nos compatriotes ? C'est le sentiment de l'injustice. C'est le sentiment qu'il y a une justice pour les puissants et qu'il y a une justice plus dure pour ceux qui ne peuvent pas se protéger. On ne peut plus continuer avec ce type au fond d'institution qui donne le sentiment, à tort ou à raison, de protéger ceux qui gouvernent.
Didier Fassin est notre invité aujourd'hui pour punir une passion contemporaine. Deux affaires très médiatisées dans la récente actualité judiciaire. En effet, celle de l'arbitrage tapis avec cette condamnation de la patronne du FMI, Christine Lagarde, pour négligence par la Cour de justice de la République le 19 décembre dernier, mais dispensée de peine et confirmée dans ses fonctions de directrice générale du FMI. On entendait à l'instant la réaction de Manuel Valls. On peut aussi citer celle de François Bayrou. Sa culpabilité étant reconnue, comment peut-elle ne pas être sanctionnée ? Puis en contrepoint, le procès de Cédric Héroux, agriculteur et militant qui comparaissait mercredi à Nice pour avoir aidé des migrants érythréens dans la vallée de la Roya, près de la frontière franco-italienne. Mon inaction m'aurait rendu complice. Le procureur le voit pour l'instant plutôt en passeur et a requis 8 mois de prison avec sursis à son encontre. Et c'est le retour du fameux délit de solidarité Didier Fassin. Là, ce sont vraiment deux exemples qui vous paraissent parlants, illustrer ce que vous cherchez à démontrer dans punir une passion contemporaine.
Certainement, ce sont des exemples qui, en tout cas, ne passent pas inaperçus aux yeux et aux oreilles des détenus dans les prisons françaises. Et ce sont des sujets sur lesquels ils discutent très 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 volontiers et très souvent entre eux. C'est ce deux poids deux mesures de la justice française. Comment on réussit à trouver à la fois des dispositifs singuliers comme la Cour de la République, des arrangements spécifiques par rapport à la question de la délinquance financière, alors qu'au contraire, on a mis en place pour la petite délinquance, pour des petits faits, une justice extrêmement rapide, celle des comparutions immédiates, qui ne permet absolument pas aux gens d'avoir une véritable défense, et pour des délits qui sont souvent tout à fait mineurs.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Punir, vous vous interrogez aussi sur la place accordée, Didier Fassin, dans l'infliction d'une peine, au plaisir de faire souffrir. Cette part maudite du châtiment, écrivez-vous en paraphrasant Georges Bataille, pour désigner ce qui est toujours en excès de ce qui est censé être, estimant que les excès du châtiment ne se déploient pas uniformément dans l'espace social, on vient de le dire. Il cible, selon vous, certaines catégories d'individus et certains territoires, mais en épargnant d'autres. Cette part maudite, Didier Fassin, explique-t-elle en partie aussi les différences entre le jugement de l'une et les réquisitions de l'autre ?
On a l'habitude de justifier la prison, en tout cas c'est ce que font les philosophes et les juristes, en disant que la prison, ou le châtiment plus généralement, en disant, et c'est le raisonnement rétributiviste, qu'il s'agit de châtier, de regarder sur l'acte passé et de le sanctionner, ou au contraire de regarder vers le futur, et ce sont les thèses utilitaristes, et se dire qu'on va essayer de protéger la société. Alors d'une part, j'ai essayé de montrer qu'il y avait en fait, et Nietzsche l'avait bien dit avant moi, qu'il y avait de très nombreuses rationalités, et pas simplement ces deux-là, dans l'infliction d'une peine. Par exemple, en prison, ça va pouvoir être pour permettre de garder une certaine paix sociale dans l'établissement, en satisfaisant les attentes des surveillants, même quand on n'est pas bien sûr que le détenu a commis le délit ou la faute qu'on lui reproche. Mais également, au-delà de ces rationalités, il y a une dimension qu'on masque souvent, et qui est une dimension affective, émotionnelle, et il y a un plaisir qui est partagé par l'ensemble de la société. Quand on se dit, voilà, ce criminel va être puni, on sent qu'il y a une émotion positive qui se manifeste. Mais évidemment, cette émotion peut aller jusqu'à la cruauté dans des traitements qui sont ensuite infligés. C'est le cas notamment dans les prisons aux États-Unis, qui sont infligés aux personnes détenues, puisqu'on a là des gens qui sont à la fois présumés coupables et d'autre part à l'abri des regards de la société. Et donc, il y a une forme de délégation à ce moment-là à des institutions, à des professions, d'un traitement qui peut être extrêmement dur de ces personnes dont on se dit que finalement, elles méritent bien ce qu'il aurait fait.
Mais ça, vous parlez de la population en général, finalement, parce que vous avez l'air de concerner tout le monde par ce fait-là. Il y a aussi une demande de justice, on peut dire, de la société, puisque la justice est faite au nom du peuple français aussi, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une demande sociale qui se transmet comme ça et qui donne ce résultat-là, cette dimension punitive dont vous parlez?
Disons que dans les moments ou d'insécurité comme celui que nous connaissons, et je ne parle pas spécifiquement de l'insécurité par exemple liée au terrorisme, je pense plutôt à l'insécurité sociale, aux difficultés que les gens rencontrent, aux incertitudes sur leur lendemain. Eh bien, dans ce contexte, les gens sont plus sensibles à un discours sécuritaire, à un discours répressif, un discours punitif. Et l'une des dimensions qui n'atteint évidemment pas la cruauté dans la plupart des cas, mais l'une des dimensions, c'est effectivement le plaisir de se dire que les gens sont punis. Alors, on se protège derrière l'idée qu'ils sont punis, mais ils le sont de manière juste. Ce que j'essaye de montrer, ce que d'autres ont fait bien sûr aussi, c'est précisément de dire que certes, on a une société qui est plus sévère, mais elle est aussi plus injuste. Et on le comprend bien parce que plus on est sévère et plus on est obligé d'étendre le spectre de la sanction, c'est-à-dire d'aller chercher des délits plus petits pour aller les punir. Et plus donc on élargit, je donnais l'exemple tout à l'heure de l'usage de cannabis, et plus on va se permettre de sélectionner les populations que l'on veut cibler en particulier. Et donc y a un lien entre une plus grande sévérité et une plus grande injustice, puisqu'elle va porter sur les plus petits délits. Et j'ajoute aussi qu'il y a un lien, alors cette fois paradoxal, mais auquel nous n'avons pas l'habitude de penser, que plus on punit, et plus on crée d'insécurité, puisque plus on punit sévèrement et plus on est amené à mettre des petits délits en prison, donc à désocialiser des personnes pendant leur temps en prison, peut-être à les mettre en contact avec des réseaux délinquants, et ensuite, à leur sortie, un risque qui est statistiquement montré comme étant plus élevé
de récidive. Vous avez des chiffres là-dessus, oui, vous avez des enquêtes qui sont...
Il y a des enquêtes qui ont été faites en France depuis plusieurs années, qui montrent une différence entre les personnes, pour les petits délits, pour les délits inférieurs à 6 mois notamment, pour les personnes qui ont été mises en prison et les personnes qui ont eu des alternatives à la prison, et on constate qu'il y a une diminution significative du taux de récidive. Donc l'idée générale, et en simplifiant, c'est que plus de punitions entraîne souvent moins de sécurité pour l'ensemble de la population.
Didier Vassin, comment faire ? Parce qu'au fond, la justice est humaine, elle le restera toujours. S'il y a un cadre normatif, c'est justement pour ne pas laisser l'exercice arbitraire ou discrétionnaire ou discriminatoire du châtiment aux hommes de loi ou de droit, mais c'est aussi une illusion de penser qu'ils peuvent venir à bout de tous leurs préjugés, de leurs intérêts. Quelle solution ?
Il est évident que il y a des très grandes différences dans la manière de juger. Des études l'ont montré depuis 30 ans ou 40 ans aux États-Unis, et certains juges sont beaucoup plus sévères que d'autres. Mais on peut dire aussi que tous les juges sont plus sévères vis-à-vis de certaines populations que vis-à-vis d'autres, et ça, on le comprend bien, parce que d'une part, ce sont les délits qu'ils commettent sont des délits qui sont plus étrangers aux juges, et d'autre part, ces personnes qui commettent ces délits n'appartiennent pas au même milieu social. Et donc il y a cette distance qui se crée avec des gens qui ne savent pas non plus se comporter dans une enceinte judiciaire, et donc les juges ont cette manière différentielle, pour ne pas dire discriminatoire,
Mais ça, c'est pas nouveau, vous êtes d'accord ?
C'est absolument pas nouveau.
Parce qu'ils n'acceptent pas la justice non plus forcément dans ce principe, précisément. Ils ne reconnaissent pas forcément ce système de justice.
Vous voulez dire les prévenus.
C'est aussi pour ça, enfin, je veux dire, vous parlez d'étrangeté du juge, mais c'est aussi vrai de l'autre côté. Et peut-être que ça entraîne...
Bien sûr, il y a une certaine manière de faire dans un tribunal qui peut être plus ou moins adaptée, effectivement. Et dans les observations que j'ai faites en comparution immédiate, on voit très bien que des gens vont aller vers une condamnation, vu la manière simplement dont ils se comportent devant le magistrat.
Muvin Gorgé d'eau, je fais une question longue pendant ce temps. Hiatus, vous l'évoquiez, Didier Fassin, entre l'idéal de peine juste qui est affirmé et la réalité de l'inégale distribution des peines. Alors que faire pour établir de la justice sociale ? Par quoi faut-il en passer ? Est-ce que ça peut commencer par une prise de conscience que ce moment d'extension du domaine de la répression et d'alourdissement du régime de sanctions est un leurre, qui n'aboutit pas aux résultats recherchés ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a deux éléments sur le que faire. Un premier, qui est celui que vous venez d'évoquer, à savoir un discours de vérité sur les effets de ces politiques punitives. Il y a des pays qui ont commencé à avoir ce discours de vérité. Du reste, parfois, comme aux États-Unis, pour des raisons principalement économiques, parce que la prison coûte cher. Dans des pays comme la Finlande, parce que on estime que la prison déstructure la société sur le long terme. Donc en tout cas, le courage de la vérité, comme dit Michel Foucault, c'est peut-être sur cette question ce qui manque fondamentalement aux responsables politiques en France, et on peut espérer qu'un jour on en arrivera à cela. La deuxième dimension, c'est que bien sûr, en amont des politiques pénales ou des pratiques pénales, il y a la situation dans la société. Et donc, les exemples que vous donniez tout à l'heure par les entretiens, les interviews, montrent que il y a des situations de précarité, d'inégalité, et que un des moyens de prévenir la criminalité et une alternative à cette sévérité punitive, c'est bien sûr la réduction des inégalités sociales.
France Culture, 13h20, l'actualité des idées, comme chaque jour dans la dernière partie de la Grande Table.
France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
Journée spéciale, les inégalités en France, comment établir une justice sociale. Nous recevons aujourd'hui l'anthropologue, sociologue Didier Fassin pour punir une passion contemporaine, un essai qui paraît cette semaine au Seuil. Punir une passion contemporaine, essai qui interroge aussi la position et la méthodologie du sociologue. C'est ce qui vous a interpellé, Claire Maillot.
Oui, bonjour Didier Fassin.
Bonjour.
Ce qui est frappant avec votre essai, c'est que vous quittez le genre de l'enquête ethnographique. Vous y manifestez une ambition plus théorique, ce qui le rapproche d'un autre essai paru l'an dernier, celui de Geoffroy de Laganerie. Il s'intitulait « Le juger l'état pénal face à la sociologie ». Le jeune sociologue s'aventurait sur votre terrain de recherche et proposait une théorie critique de l'état pénal. Il en profitait aussi pour pointer les failles de votre propre méthodologie. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de la Grande Table le 12 janvier 2016.
J'essaie d'opposer justement ce type d'approche que j'appelle une approche par objet, et notamment l'approche ethnographique. Alors les mots sont piégés parce que ces enquêtes se présentent souvent comme descriptives et ethnographiques, et moi je leur conteste le caractère ethnographique et je leur conteste le caractère descriptif, mais en gros qui part de l'idée selon laquelle c'est en allant voir et en décrivant des parcelles de la réalité qu'on pourra comprendre le fonctionnement du monde social. Et moi je crois que à l'inverse, et je fais notamment une critique assez radicale des écrits de Didier Fassin dans ce livre, j'essaie de montrer qu'au contraire l'ethnographie participe d'une mystification et d'une incompréhension des cadres de la vie politique et juridique telle qu'elle fonctionne et qu'elle s'impose à nous. Ce que j'ai voulu montrer notamment, c'est que moi j'ai commencé mon livre vraiment le pensant comme une ethnographie. Donc je suis allé voir des procès et je pensais restituer des procès d'assises dans un livre qui raconterait des procès. Mais très vite, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si vous faites ça, vous êtes nécessairement aveugle à la réflexion sur les catégories qui structurent la réalité qui s'impose à vous. Quand un procès se tient, il met en jeu nécessairement un certain nombre de catégories de jugement, une catégorie de responsabilité, une catégorie de victime, une catégorie de peine, une catégorie de procureur, une forme politique particulière. Mais par définition, ces catégories ne sont plus en jeu dans le procès. Tous les acteurs s'inscrivent à l'intérieur des cadres de la vie sociale et institutionnelle tels qu'ils sont constitués par des mécanismes de pouvoir. Et donc, vous ne les voyez pas dans un procès puisqu'ils ne sont plus en jeu, ils ne sont plus discutés. Pour qu'un procès se tienne, il faut que ces questions ne soient plus posées. Et donc, la condition pour pouvoir objectiver ce qui se passe dans un tribunal, c'est de sortir du tribunal et c'est de penser non pas par objet dans l'approche ethnographique traditionnelle, penser par système, essayer de reconstituer un système du jugement, un système de la répression, de poser un problème. Qu'est-ce que c'est que juger? Qu'est-ce que c'est réprimer? Et de ce point de vue-là, effectivement, ça revient à votre introduction, on en vient à sortir totalement des frontières disciplinaires, puisque si je réfléchis sur qu'est-ce que c'est que juger, qu'est-ce que c'est que réprimer, je suis amené à discuter aussi bien avec des juristes comme Kelsen, avec des théoriciens du droit comme Foucault, avec des sociologues, avec des ethnologues, etc. Et donc, je sors complètement d'une logique disciplinaire pour une logique de penser par problème, et à mon avis, il s'agit à ce moment-là de reconstituer l'idée même de jugement, l'idée même de répression, et ça c'est une question qui n'est plus du tout en jeu dans la théorie ethnographique traditionnelle.
Didier Fassin, sortir la question pénale de ses frontières disciplinaires, c'est ce que vous faites aujourd'hui dans ce livre, faire dialoguer l'enquête de terrain avec d'autres champs comme le droit et la philosophie politique, des champs normatifs. Est-ce que c'est pas valider a posteriori cette critique? Est-ce qu'elle vous paraît légitime déjà?
On se demande pourquoi il vous en veut en fait.
Il y aurait des explications certainement, mais non, je crois qu'il est...
On va mettre tout le monde sur le divan, je pense, aujourd'hui, après les magistrats.
Non, je crois que c'est une erreur fondamentale, mais de jeunesse, d'opposer ethnographie et théorie. En réalité, tous les gens qui font de l'ethnographie de façon substantielle, sérieuse, savent que elle est complètement nourrie d'ethnographie et que elle nourrit la théorie. Du reste, Pierre Bourdieu, dont votre auteur a été un élève et pour lequel il a une grande admiration, insistait beaucoup sur l'importance du matériau empirique, en disant même que parfois un objet en apparence dérisoire, minime, permettait de dévoiler tout un pan du monde social. Et du reste, les ethnographies que j'ai pu conduire sur la police, sur la justice et surtout sur la prison ont chaque fois été, c'est en cela que je les appelle des ethnographies critiques, ont toujours été en lien avec l'évolution historique les transformations sociologiques, les enjeux politiques, les questions morales qui sont soulevées, et non, en restant donc jamais au niveau de l'interaction de ce qui peut se passer entre des personnes. Donc je crois que c'est un petit peu une fausse opposition et que aujourd'hui, si j'ai développé un travail théorique qui du reste est nourri à la fois de ma propre ethnographie, celle d'autres aussi, et d'une approche généalogique, c'est parce que des conférences qu'on m'a demandé de donner m'ont donné l'occasion, et parce que je dirais que ça a été pour moi un moment, après 10 ans de travail ethnographique, de faire une sorte de synthèse sur ce que signifiait l'acte de punir, pas seulement aujourd'hui, mais avec une certaine profondeur historique.
Mais grâce à cette interpellation, merci Claire Maillot, on aura pu avoir une précision importante sur votre démarche aussi, Didier Fassin. Comment expliquer l'intérêt grandissant des sciences sociales pour la question pénale aujourd'hui? Il y a eu deux revues Esprit et Mouvement qui ont consacré leur numéro d'hiver aux prisons. Début 2016, de cet ouvrage, donc Juger l'état pénal face à la sociologie, de Geoffroy de la Gannerie. À l'automne 2016, Prison de France, un formidable livre enquête de Farhad Khosrokhava sur la folie carcérale. Aujourd'hui, vous revenez à cette question qui vous est chère, Didier Fassin. Crise du sens de la peine, nous disait Antoine Garapon. Pourquoi punir? Vous évoquiez l'approche utilitariste, l'approche rétributiviste qui est toujours en balance aujourd'hui dans nos sociétés. Le moment, comme vous dites, est compliqué. Après les attentats, l'État est appelé à répondre à une demande grandissante de sécurité. Est-ce qu'il peut vraiment échapper pour vous, Didier Fassin, au populisme pénal? Est-ce qu'on peut sortir de cette logique de vengeance sociale dans la répression pénale? Est-ce que ce serait audible politiquement?
Que le châtiment soit une forme de vengeance, le châtiment tel qu'il est donné à travers des peines dans les tribunaux, soit une forme de vengeance socialisée, c'est une chose qui est admise. L'évolution de pays voisins montre en Europe, notamment, montre que le pire n'est jamais certain et que on peut aussi avoir à un moment donné des responsables politiques et du reste de droite comme de gauche qui à un moment donné ont le courage de dire la vérité, de poser certaines questions non pas par un souci d'humanité, encore que ce soit le cas pour certains, mais pour des rationalités qui sont tout à fait qui peuvent absolument toucher l'ensemble de la population, rationalité économique, rationalité sécuritaire. Donc je crois qu'on a aujourd'hui de bons arguments.
Qui tient ces discours? Vous les avez entendus dans la bouche de qui?
À l'étranger?
En France?
En France, malheureusement, je crois que le débat, malgré les travaux que vous avez mentionnés, le débat sur la question punitive dans son ensemble et pas simplement des peines qui sont infligées, ce débat n'a pas été véritablement ouvert. Alors, le sera-t-il au moment de la campagne électorale qui commence? On pourrait le souhaiter, mais on a bien vu comment il a été quasiment impossible à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, d'obtenir des réformes en matière pénale. La loi qu'elle a finalement pu faire passer était bien plus modeste dans ses ambitions que ce qu'elle avait imaginé, et encore plus modeste dans ses réalisations, puisque la mesure phare, la contrainte pénale, n'est quasiment pas appliquée par les parquets et les tribunaux.
Parce qu'il y a eu les attentats, il y a eu cette situation d'état d'urgence. Une dernière question rapide.
Donc ouais, ça sert à quoi la prison pour vous, finalement? Vous êtes dans quelle catégorie?
Je suis dans la catégorie des gens qui regardent ce qu'elle est effectivement. Aujourd'hui, elle ne réinsère pas, elle ne permet pas aux gens de travailler, elle désocialise, elle déstructure.
Sur le fond, donc, rétributionniste, utilitariste ou autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas prendre une position quand même?
Ma position, ce serait effectivement de dire qu'il vaut mieux protéger la société et que une grande partie de la population qui se trouve aujourd'hui en prison n'y a rien à faire et que d'autres mesures pourrait tout à fait être proposé de façon à, encore une fois, mieux protéger la société.
Le châtiment, remarquable analyseur des sociétés, des affects qui les traversent et des valeurs dont elles sont porteuses. Écrivez-vous Didier Fassin, merci beaucoup. Punir une passion contemporaine sort cette semaine aux éditions du Seuil. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Claire Maillot et Clémence Marie, qui ont conçu ces deux parties préparées par Nicolas Dutant et Henri Leblanc. Merci aussi à Ise Sicard et Inès Magriff pour leur aide aux manettes ce lundi. Luc-Jean Reynaud avec Dalia. Peut-être vous rappeler quand même que ce soir, pour les Parisiens, vous pourrez retrouver Didier Fassin avec Mireille Delmas-Marty, Michel Perrault, Michael Fossel et Didier Ruiz, metteur en scène, à partir de 19h à la Maison des Métallos. Merci à tous.